Nous écoutons maintenant le texte de l'Évangile selon Luc qui nous est proposé pour aujourd'hui au chapitre 18, les versets 9 à 14.
Jésus dit la parabole suivante à l'intention de ceux qui se croyaient justes aux yeux de Dieu et méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait à part et priait ainsi. « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont voleurs, mauvais et adultères. Je te remercie de ce que je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne deux fois par semaine et je te donne la dixième partie de tout ce que je gagne. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine et disait « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » « Je vous le dis, ajouta Jésus, cet homme était en règle avec Dieu quand il retourna chez lui, mais pas le pharisien. Car tout homme qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. »
Si vous remontez de quelques paragraphes les lignes que nous venons de lire, vous tombez sur des versets où on trouve un enseignement un petit peu particulier sur la prière. Vous savez, c'est l'histoire de ce juge, le juge inique, qui se laisse finalement tordre le bras parce qu'il est tombé sur une veuve suffisamment insistante pour cela. La prière se présente comme suit. À force de casser les pieds de quelqu'un, on finit toujours par obtenir des résultats. Enfin, c'est le premier sens, si vous voulez, qui nous apparaît quand on relit ces lignes. C'est une drôle de morale, finalement, sauf si on se souvient que cette parabole-là, comme toutes les autres probablement, ne nous emmène pas vraiment de ce côté-là. Il s'agit plutôt de nous faire comprendre que ce que nous obtenons a déjà été préparé pour nous. Nous ne découvrons jamais rien. Nous tombons sur ce qui a été mis à disposition pour nous. Et même s'il y a une forte différence entre les versets qui suivent et ceux que nous venons de réentendre, au fond, c'est un peu la même chose qui agit à l'intérieur. Ce n'est donc pas si éloigné que cela de l'idée de grâce, même si parfois on nous met en récit les efforts, parfois maladroits, désespérés, de quelqu'un qui fait tout pour y arriver, pour le trouver par lui-même, et qui souvent se trompe, s'égare, comme c'est le cas de l'un des deux personnages que nous rencontrons aujourd'hui. Pas si loin que ça de la grâce. Dans ce sens-là, les versets d'aujourd'hui sont finalement, non pas en opposition, mais dans le droit fil de ceux qui précèdent. Il y a toujours une version différente de la grâce dans les paraboles. C'est pour ça que c'est une bonne chose qu'on en ait beaucoup. On en a plusieurs facettes. Une version différente de la grâce dans les paraboles parce qu'il y a toujours quelque chose qui contredit, subvertit, montre du doigt, ridiculise gentiment notre nature hésitante, ondoyante, nos fausses solutions, nos bricolages. C'est toujours sous ce pas encore, cet inaccompli, cette imperfection que les paraboles essaient d'agir. Ici, nous assistons à la controverse entre deux personnages bien campés, comme on dit, au comportement très, très différent, peut-être jusqu'à la caricature. Par ordre d'apparition à l'écran, comme on dit, nous trouvons d'abord le pharisien. Nous savons que les pharisiens sont souvent pris à partie par Jésus et que les débats à leur époque ont été parfois assez âpres au sujet du sabbat ou de telle ou telle autre application ou manière de vivre la loi. C'était toujours à propos de l'interprétation de la loi. Mais on est souvent injuste avec eux, il faut le rappeler aussi, il faut se garder de les figer dans un rôle de méchant. Du point de vue de la connaissance des Écritures, d'ailleurs, nous ne leur arrivons la plupart du temps pas à la cheville. Et puis, comme nous le verrons tout à l'heure, ils représentent toujours quelque chose de très important pour nous, ou pour le dire autrement, une fonction importante en nous. Commençons par lui alors. Le pharisien se distingue par son moi-je, omniprésent, bardé de certitudes, des mérites mis en avant, sans modestie excessive, et plein d'esprit de sacrifice. J'ai payé la dîme, je fais ceci, je fais cela, ça m'a coûté cher. Il n'y a pas chez lui d'ingratitude vraiment, puisqu'il rend grâce. Je te rends grâce, je te remercie de m'avoir fait supérieur. Donc il n'est pas complètement dans l'ingratitude, il arrive quand même à dire merci pour cet énorme cadeau. Le problème, c'est que ce qui devrait n'être qu'un simple merci se transforme en supériorité. C'est là qu'il y a le petit glissement, le petit dérapage. Sa prière avait pourtant bien commencé, puisque si vous vous reportez dans vos Bibles au psaume 26, vous verrez quelque chose qui ressemble beaucoup à ce que dit ce pharisien. Je vous en cite un petit passage. « Je ne m'assieds pas avec les hommes faux, je ne vais pas avec les gens dissimulés, je déteste l'assemblée des mauvais, je ne m'assieds pas avec les méchants, etc. etc. » Je passe quelques lignes et puis « Je fais le tour de ton autel, Seigneur, pour déclarer ma reconnaissance. » Donc sa prière ressemble bien au psaume 26, sauf la fin. La reconnaissance du psaume a fait chez lui place au mépris, et c'est tout le problème. Et puis il y a le second personnage, il y a le collecteur d'impôts. Alors c'est un peu le collecteur d'impôts, le choix de la provocation, hein, comme d'habitude. Il y a toujours un personnage qui n'a rien à faire là dans les paraboles. Ici, c'est le collecteur d'impôts, un peu comme dans le cas du Samaritain, qui est, au moment où Jésus l'évoque dans une autre parabole, chez Luc également, et seulement, le seul à comprendre ce qu'est la vraie religion. Ici aussi, ce qu'il faudrait faire nous vient d'une personne réprouvée, dont on n'attend rien de bon en général. Les Samaritains, les collecteurs d'impôts, etc. Pas de risque donc, dans le cas de ce second personnage, de tomber sur un complexe de supériorité. Il sait trop bien ce qu'on lui reproche en permanence. Pas de risque, donc. L'attitude de ce second personnage est donc bien différente du premier. Lui aussi dit « je ». Et ça, c'est important. Et le « je », chez lui, est très appuyé, mais c'est pour mieux se regarder tel qu'il est, non pas pour manier le comparatif de supériorité. Il ne parle que de lui. Des deux personnages, il est peut-être le seul qui consent à être seul face à lui-même. Ça fait une grande différence avec l'autre. Il sait où il en est à propos de lui-même, son jeu et celui de la lucidité. Ce n'est pas du tout le même jeu que l'autre. Voilà pourquoi la conclusion du verset 14 éclate comme une évidence, alors que le chemin suivi par l'un ou par l'autre de ces deux personnages est tout sauf évident. La justice, aux yeux de Dieu, n'est pas le fruit d'un rituel pénitentiel qui culmine dans un moi-je. Elle se trouve dans un regard juste sur soi-même, dans un état des lieux parfaitement exact. Ici, il y a bien un abaissement et une élévation. Celui qui s'abaisse jusqu'à regarder profondément en lui-même n'a plus qu'à regarder vers le haut, là où on l'attend. Et la communion avec celui qui le relève. Il y a bien une descente et puis une remontée. Celui qui s'élève par le mépris et le sentiment de supériorité connaît, lui, une dégringolade vertigineuse et se retrouve tout seul, aboutissement imprévu et pourtant prévisible, finalement, de son moi-je, moi-je. L'intérêt des personnages mis en opposition frontale comme Caïn et Abel, comme Jacob et Ésaü et tant d'autres, et aussi comme nos deux opposés, là, dans le texte d'aujourd'hui, c'est bien sûr qu'ils représentent des types spirituels que nous incarnons fréquemment. Si ça n'était pas le cas, Jésus n'aurait jamais raconté de paraboles qui sont des comparaisons et qui appellent, qui attendent de nous une implication personnelle. Quand on lit une parabole, il faut s'apprêter à devoir dire « je » aussi. Ici, l'enjeu est ni plus ni moins la justice devant Dieu. Le récit s'achève par une affirmation bien nette, bien carrée. Le collecteur d'impôts est reconnu juste devant Dieu, sans qu'on lui ait demandé un zeste d'opinion personnelle. D'ailleurs, il n'est pour rien dans ce jugement, il vient du dehors. Sa part à lui, c'est son propre regard sur lui-même. Trop occupé donc pour envisager, en plus du sien, le point de vue de Dieu lui-même. Les journées n'ont que 24 heures, on fait ce qu'on peut. Que veut dire le mot « justifié » utilisé par Jésus ? Quel est le point de vue de Dieu lui-même sur ces questions, pour le dire autrement ? Et juste, semble-t-il, celui qui ouvre la voie de l'espérance ou d'un avenir possible, celui qui croit sincèrement qu'aucune situation n'est définitivement bloquée. D'ailleurs, cette parabole s'arrête à peu près à ce constat, il n'y a pas d'après, du moins dans le texte. Mais si une parabole s'arrête à un certain point, ça ne veut pas dire qu'elle est terminée. Chacun peut, chacun doit peut-être découvrir la suite de la parabole. Pour le pharisien, vous remarquez que s'il est un peu en mauvaise posture et que sa manière de faire est condamnée en tant que voie spirituelle, il n'est, lui, condamné à aucune peine en sortant de là. C'est sa manière de faire qui le referme sur lui-même. Mais il est, même s'il ne le sait pas encore, dès cet instant appelé à en choisir une autre. Sa manière d'envisager la religion est un peu sans issue, mais lui n'est pas promis à un enfermement perpétuel. C'est lui seul qui s'est enfermé dans une voie dont il doit sortir. En ce qui le concerne, donc, pas de perpétuité incompressible, simplement un rappel à la loi. Vous voyez, c'est moins grave. Entre le collecteur d'impôts et le pharisien, il y en a simplement un des deux qui a été plus rapide que l'autre, plus clairvoyant que l'autre sur cette réalité de la grâce. Un peu comme les deux apôtres qui arrivent au tombeau, il y en a un qui comprend et l'autre qui ne comprend pas ou pas encore. L'un est justifié, l'autre est en quelque sorte en attente de justification. Pour le pharisien, pardon, personne ne sait quand il choisira de quitter sa solitude mortelle. Nous savons pourtant tous que c'est possible, mais nous ne savons pas combien de temps il lui faudra. C'est la seule inconnue, finalement, le temps qu'il lui faudra pour saisir une grâce qui est toujours à portée de sa main. Notre ressemblance fréquente avec le pharisien ne doit pas nous désespérer, puisqu'il est aussi promis à une délivrance, un jour, on ne sait pas quand. Le collecteur d'impôts, lui, a vu l'espérance entrer dans sa vie ce jour-là. Pour lui, c'est déjà une réalité. Eh bien, notre propre oscillation, notre balancement entre les deux personnages dit bien, je crois, notre valse hésitation entre la grâce reçue, qui est une liberté pour tout de suite, et les tâtonnements infructueux qui nous font chercher maladroitement et dans toutes sortes de directions la valeur de notre vie, sans savoir que nous l'avons à portée de main. C'est pour cela que nous perdons beaucoup de temps. Dans le roman « L'élégance du hérisson », Muriel Barbery écrit « Je crois que la lucidité rend le succès amer, alors que la médiocrité espère toujours quelque chose. » C'est un peu sec, dit comme ça. Est surtout assez faux en ce qui concerne nos deux personnages, même si ça peut être vrai sur certaines formes de lucidité le reste du temps. Le collecteur d'impôts ne connaît pas l'amertume annoncée ici. Au contraire, c'est la joie d'une voie ouverte ou réouverte qui le renvoie chez lui. Et de son côté, le pharisien découvrira un jour, peut-être, sûrement, la médiocrité de ses choix. Et c'est ce qui le fera rejoindre le collecteur d'impôts dans la justice de Dieu. Tous les deux sont gagnants, finalement, du point de vue de l'espérance, en tout cas, c'est-à-dire du point de vue de Dieu lui-même. L'un des deux ne le sait pas encore, c'est tout. Amen.